Kurios, c'est le maître à qui j'appartiens. Mais on peut mettre ensemble les deux. Donc c'est l'idée de Seigneur qui en hébreu est donnée par Adon, qui a donné Adonai. Adonai veut dire Seigneur. Et puis Baal, l'idée d'un mot un petit peu plus banal qu'on retrouve dans les divinités des Cananéens. C'était leur Seigneur, quoi. C'était leur Dieu. Donc ils l'appelaient le Baal de ceci, le Baal de cela. Voilà pour l'étymologie. Alors on va être obligé de donc parler de ces deux choses, parce que ce n'est pas tout à fait identique. On va essayer de se poser la question, en quoi est-ce que le Seigneur Jésus, ou le Seigneur Jésus est-il notre maître qui enseigne, notre maître à penser, on va dire, et puis ensuite est-il notre chef, celui qui nous commande et à qui nous appartenons. Et on va se poser donc la question, pour ce qui est du maître à penser, est-ce que je suis un disciple? C'est ça la définition d'un disciple. Un écolier, si vous voulez, du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui va à son école et qui entend son enseignement, et qui aime son enseignement, et qui a accepté son enseignement. Vous voyez ? Quelqu'un qui, on peut dire, a adopté sa philosophie. N'ayons pas peur des mots. Philosophie, c'est recherche de la sagesse. Bon, ben, est-ce que la sagesse du Seigneur Jésus, c'est quelque chose que nous avons décidé de suivre ? C'est une manière de penser que nous avons adoptée. Vous voyez ? C'est ça la grande question, par rapport à notre maître à penser. Et est-ce qu'aussi, non seulement nous l'aimons, cette manière de penser, mais est-ce que nous l'appliquons ? Alors, moi, je vous propose un peu d'avoir un peu un regard neuf sur l'enseignement du Seigneur Jésus. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes quasiment tombé dedans quand vous étiez petit. On est tellement habitué à lire la Bible, au message du Seigneur Jésus, que on ne sait plus trop le redécouvrir. Enfin, on ne sait plus trop l'apprécier. Si on avait peut-être trempé dans des modes de pensée complètement différents, païens ou dans l'hindouisme, par exemple, l'Évangile serait une découverte, une libération pour nous. Alors, essayons d'avoir à nouveau ce regard un peu neuf. Et je vous propose qu'on lise un certain nombre de passages des évangiles qui nous montrent le message du Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il conçoit les choses. Ces grandes pensées philosophiques, j'ose dire la chose. Et déjà un certain nombre de définitions qu'il a données. Qu'est-ce que c'est que la vie pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et là, nous allons avoir un certain nombre de fondements de la pensée chrétienne. Quand même changer le monde. Qui a complètement transformé la société. Peut-être moins qu'il le faudrait, mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, dans les pays christianisés, on a des traces indélébiles de cette manière de penser. Alors la vie. Quand le Seigneur Jésus parle de la vie, déjà première chose, on ne va pas lire ce verset, mais il dit que la vie, c'est plus que la nourriture, et le corps, c'est plus que le vêtement. Et il veut dire par là que la vie, ce n'est pas simplement quelque chose de présent et de temporaire, ce n'est pas quelque chose de matériel, il faut aller au-delà. Il va lui donner une dimension spirituelle. Et donc, on va lire Jean 17, verset 3, non seulement spirituel, mais en plus, en dehors du temps. Jean 17, verset 3, « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, vivre vraiment, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déjà, c'est vivre éternellement, sinon c'est rien du tout, et c'est connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu. Voilà, c'est ça, la vraie vie. Si on n'a pas cette vie-là, on ne sait pas ce que c'est que la vie. On est comme des misérables plantes ou animaux qui vont passer sur la terre un certain temps et puis qui vont disparaître. Mais le Seigneur, lui, il a une autre vision de la vie. Voilà, c'est vivre éternellement et c'est avoir une relation avec le Créateur du monde. C'est ça la vie, c'est ça vivre. C'est ça qui donne des ailes, on peut dire, qui donne à la vie un sens, un autre sens. Ce n'est pas une vie misérable de quelques années sur la terre. Donc voilà, une vie éternelle et avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment vivre. Et c'est ça dont le cœur humain a besoin, dont l'être humain a vraiment besoin. Deuxième chose, comment est-ce qu'il a défini la loi, la volonté de Dieu? Comment est-ce que le Seigneur Jésus l'a exprimé simplement? Eh bien, on va lire dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37. Alors, on lui pose la question, hein, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Voilà comment, en quelques mots, le Seigneur résume tout ce que Dieu attend de nous. Aimer Dieu, alors là, de toute notre force, hein, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est simple, ça résume tout. On peut dire que si on rentre dans ces deux commandements, on couvre tous les autres. Aimer Dieu, aimer son prochain. Alors, je ne vais pas trop le développer parce que je vais en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit de la grandeur ? Et ça aussi, je crois que ça a changé la face du monde. Marc 10, verset 43. Marc 10, verset 43, on peut lire déjà au verset 42. « Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous devra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Une définition, on peut dire, révolutionnaire de la grandeur. La grandeur, ce n'est pas de dominer sur les autres, mais c'est de servir les autres. Et ça, ça change complètement l'optique du monde. Les grands, ce sont plus ceux qui règnent, qui dominent, c'est ceux qui servent le plus les autres. Donc c'est quoi en fait? C'est la grandeur du cœur, plus que la grandeur du bras, on pourrait dire, de la force. C'est la grandeur du cœur. Voilà, la vraie grandeur, c'est la grandeur de votre cœur. Et ça, il faut en être persuadé, parce que ça change complètement l'orientation de votre vie. Est-ce que vous voulez beaucoup servir ou est-ce que vous voulez beaucoup dominer? Ça change la vie. Comment est-ce qu'il a défini l'amour? Jean 15, verset 13. Alors, on l'a lu tout à l'heure. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, que de laisser sa vie pour ses amis. Voilà. L'amour, c'est être prêt à se donner. Dans la société aujourd'hui, quand on parle d'amour, malheureusement, on parle plutôt de désirer. J'aime quelqu'un, c'est que je le désire. Ou j'aime le chocolat, c'est que je le désire. Ça, c'est facile, oui. Mais l'amour, le vrai amour, alors c'est plus que désirer, bien sûr. C'est plus que vouloir le bien, c'est déjà pas mal d'aimer quelqu'un en voulant son bien. Ça, c'est déjà supérieur à le désirer. C'est même plus que lui donner quelque chose pour son bien. C'est être prêt aussi à se donner pour son bien. Et ça, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour sacrifice. L'amour qui va jusqu'au sacrifice. L'amour qui s'oublie soi-même, abnégation, et qui ne pense qu'au bien de l'autre. Ça, c'est vraiment l'amour. Et ça, c'est le Seigneur qui nous l'a appris. Et on le lit aussi dans la première épître de Jean. Par ceci, nous avons connu l'amour. On ne savait pas ce que c'était que l'amour. Parce que lui a donné sa vie pour nous. Et nous, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Alors on peut aussi, dans notre vie, d'une certaine manière, donner sa vie pour les autres. Et ça, c'est vraiment les aimer. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit de l'adoration, le vrai culte que Dieu cherche? Ça aussi, c'est révolutionnaire. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Ça met de côté tout l'aspect rituel, tout l'aspect visible du culte, ce que Dieu cherche en réalité. Au-delà du visible, qui a sa place, parce qu'on n'est pas quand même des purs esprits, mais ce que Dieu cherche vraiment, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans notre être intérieur et avec sincérité. Voilà ce que Dieu cherche. Des cœurs qui vibrent pour lui. Voilà, c'est ça, le vrai culte que Dieu attend de nous. Le reste, c'est un arrangement parce qu'on est dans un monde d'apparence, mais ce que Dieu lit et ce que Dieu recherche dans les êtres humains, c'est des cœurs qui vibrent pour lui. C'est ça la vraie adoration. Comment est-ce que le Seigneur a défini la liberté? Jean 8, parce qu'on trouve plein de définitions de la liberté dans la société. C'est faire ce que l'on veut, par exemple. Puis si ce que je veux, c'est mauvais pour moi, ben la liberté n'est pas bonne pour moi. Jean 8, verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. » Alors voilà, d'où vient la liberté? C'est pas faire ce que l'on veut, c'est pas faire ce que ci, ce que là. C'est de connaître la vérité. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que ça libère? Comment est-ce que la vérité libère? C'est un peu compliqué. La meilleure réponse que je trouve à cette question, c'est, on lit dans Éphésiens 4, que la vérité est en Jésus. Et l'apôtre Paul, il dit, quand j'ai connu le Christ, j'ai fait la perte de toutes choses, et je cours droit au but, il dit ça dans l'épître aux Colossiens, je cours droit au but, oubliant les choses qui sont derrière, et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but. Voilà un homme libre, qui n'a qu'un objectif. Je crois que c'est ça la vraie liberté, et un homme sera parfaitement libre le jour où il n'aura qu'un seul objectif, c'est de glorifier Christ. Christ remplit ma vie, et je n'ai qu'un but, c'est de glorifier. Alors là, je suis totalement libre. Je suis libre de moi-même, de l'image que je donne aux autres, je suis libre de ce qu'en pensent les autres, je suis libre de mes propres aspirations. Elles deviennent totalement secondaires. Voilà, que je gagne Christ. Ça, c'est la vraie liberté. D'avoir un objectif simple qui est le Seigneur. Et puis, le bonheur. Alors, le Seigneur n'a pas donné une définition du bonheur, mais en tout cas, il a donné une direction pour le trouver. Une parole du Seigneur Jésus qui se trouve dans les actes. Et c'est la seule qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Donc, certainement que Paul l'a entendu de bouche à oreille. Acte 20, verset 35. « Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il y a plus de bonheur ou il est plus heureux de donner que de recevoir. » Une piste pour trouver le bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On s'imagine que plus on va recevoir de choses, on va avoir des réponses à nos aspirations, à nos rêves, à nos projets, plus on va être heureux, eh bien beaucoup de gens ont tout ce qu'ils veulent et sont parfaitement malheureux. Parce que le cœur humain, il est sans fond. Et finalement, ils deviennent totalement blasés, ils n'apprécient plus rien. Et le roi Salomon n'a pas échappé à ça. Vanité des vanités, tout est vanité. Il avait tout pour être heureux, il avait tout. Eh bien, il n'a pas trouvé le bonheur dans tout ça. Le vrai bonheur, c'est plutôt de donner. En fait, c'est le bonheur de l'amour que de donner. Quand on aime, on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, un chrétien doit s'épanouir dans ce bonheur-là, celui de donner. C'est une autre orientation dans la vie. Bien souvent, quand vous rencontrez des gens qui ont passé leur vie au service des autres, ils ont un rayonnement qui est particulier, qui montre qu'ils ont trouvé ce bonheur-là. Le bonheur de l'amour, donner plus que recevoir. Tout ça, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est quelque chose qu'on comprend, qui fait un ensemble, qui est la vie du chrétien. Et je pense que c'était utile d'un peu le reposer sur des versets pour comprendre que, eh bien, le Seigneur Jésus est vraiment notre maître à penser. Il a donné un enseignement qui peut transformer le monde et qui, en tout cas, peut transformer des vies. On va même pousser la chose jusqu'à comparer son message à lui avec d'autres religions.